Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de prendre du recul jusqu'à 19h sur les dernières infos du jour avec nos grandes voix. Ce soir, toujours à distance, Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service économie à Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Et depuis Marseille, ce soir, notre correspondante, Nathalie Chevance.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir
Nathalie, bienvenue. Bonsoir à tous.
Bonsoir, avec presque de l'engouement dans les voix, ça fait plaisir. Nathalie Chevance, on est ravis de vous accueillir aussi ce soir depuis le sud-est de la France. Et c'est avec vous que j'ai envie de démarrer ce soir parce que, évidemment, une des prochaines échéances, c'est bien sûr les vacances estivales et beaucoup d'attentes, à la fois pour les professionnels du tourisme, beaucoup d'attentes pour nous, simples citoyens qui aimerions bien profiter aussi peut-être de quelques jours de break à ce moment-là. Est-ce qu'on visualise déjà chez vous et comment ?
Bah déjà, ça se visualise dans les rues de Marseille. Elles sont désertes. Ça peut étonner dans une ville qu'on dit rebelle, mais il n'y a vraiment personne. Et du Vieux-Port aux Calanques, il n'y a pas de touristes à l'horizon. Alors ici, où là, il y a bien des petits malins. Chose vue, cette annonce sur le Bon Coin où la propriétaire d'une villa avec piscine et transat a proposé de louer son jardin 30 euros par personne pour 7 heures de détente, ce qui est totalement illégal. Voilà, car les locations saisonnières sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Et d'autres se sont fait d'ailleurs verbaliser, expulser, notamment d'une villa qu'ils avaient louée pour le week-end de Pâques. Alors voilà, ça c'est pour les petites anecdotes. Oui. Mais ici dans le sud, j'ai vraiment envie de vous dire que les professionnels du tourisme ne rigolent, mais alors pas du tout. 98% de l'activité est à l'arrêt. Cela représente 143 000 emplois, 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et le dernier coup de massue, on en a parlé sur Europe 1, ce sont bien sûr tous ces festivals d'été annulés en cascade. Avignon le premier, 100 millions d'euros de recettes envolées. Nîmes, Aix-en-Provence, Orange, 80 festivals sur la sellette, c'est considérable. Et puis pour l'avenir, vous me direz, je vais vous répondre qu'on ne sait rien. Et c'est ce que
rien, il y a rien qui fuite.
Il y a rien
qui commence un peu du côté des groupes hôteliers ou de.
Écoutez, j'ai téléphoné tout à l'heure au président du comité régional du tourisme, François de Canson. Impossible de dire quand les réservations pourront débuter pour cet été. Sachant que la région sud, c'est quand même la deuxième région la plus importante en termes de tourisme derrière Paris et l'Île-de-France. Et la grande question pour tous ces professionnels, c'est de savoir comment ça va marcher. Les hôtels ne sont pas fermés officiellement. Mais pour le reste, on pense au camping. Quelles mesures d'hygiène ? Quel investissement pour l'accueil du public ? C'est toute une profession qui attend des précisions de la part du gouvernement. Et il faut faire vite pour sauver une toute petite saison d'été qui pourrait démarrer au mieux le 15 juin, me dit-on. La région sud qui a prévu de mettre sur la table 2 millions d'euros pour communiquer sur la relance du tourisme familial et de proximité.
Oui, parce que les aides, c'est bien, mais il va falloir une méthodologie, effectivement, pour savoir si on peut remplir les campings complètement, quels gestes barrières, à quelle distance les tentes, et même les tables dans les restaurants, etc. On revient vous voir dans quelques minutes, Nathalie Chevance. Virginie Salmen, on en est où ce soir ? Les hôpitaux d'Île-de-France, ce serait pas mal de faire un point avec vous, du côté de l'hôpital public, quid des lits disponibles, de l'accueil en réanimation ? Est-ce qu'on est toujours à flux tendu ?
Alors c'est la petite lumière au bout du tunnel. On est probablement en train d'amorcer une descente de ce fameux plateau. Vous savez que ce n'est plus un pic, mais un plateau haut. Il y avait une conférence de presse de l'APHP, donc l'Assistance publique hôpitaux de Paris, cet après-midi, pour faire justement un point sur les derniers chiffres. Et on observe donc une décroissance forte d'abord des appels du SAMU, ça c'est un bon signe. En réanimation, on voit enfin une faible décroissance, moins 3% d'admission en 24 heures. Donc ça c'est tous ces signaux-là sont quand même au vert, ça commence et c'était très attendu. Il y a maintenant un autre phénomène qui préoccupe les médecins, et c'est que tous les malades d'autres maladies que le Covid ne se sont pas fait soigner pendant tout ce temps, pendant toutes ces semaines. Donc les médecins commencent en ce moment à réorganiser un petit peu. Il y a encore évidemment beaucoup de malades du Covid dans les hôpitaux, mais par exemple vider un bloc opératoire qui était encombré de lits de malades du Covid. On essaie de faire un peu de place pour accueillir les autres malades parce qu'on se rend compte par exemple que pour la appendicite. La PHP a fait une étude sur les 19 premiers jours du confinement et les a comparés avec les 19 jours de mars de l'an dernier. Il y a moins 74% de consultations sur l'appendicite. Donc il n'est pas possible qu'il y ait moins d'appendicite que l'an passé. Ça, ça ne marche pas. Donc où sont ces gens? Ils n'ont pas d'explication. Ils ne savent pas comment ces gens ont pu se faire soigner. Peut-être l'appendicite, un début d'explication, ce serait que des médecins ont fourni des antibiotiques pour que au moins on retarde un peu la maladie. Mais il y a aussi, par exemple, par mois, tous les mois, 5000 nouveaux cas de cancer du côlon.
C'est fou, hein.
Et bien là, on n'en diagnostique quasiment pas. Donc où sont tous ces malades qui vont arriver avec retard à l'hôpital, avec des pathologies peut-être un peu aggravées? Et voilà ce qui préoccupe en ce moment les médecins, et en particulier les médecins hospitaliers.
Bah oui, forcément, on se demande effectivement où ils sont. Ils n'ont pas voulu déranger en quelque sorte hein, ces malades, mais il va bien falloir qu'ils se manifestent. Emmanuel Duteil, il y a une question hein, ce soir encore, parce que on suit hein, le feuilleton Amazon déjà depuis quelques jours avec vous. Ça y est, hein, porte close pour 5 jours au moins.
Oui, effectivement, depuis 13h aujourd'hui, dans les entrepôts français d'Amazon, il n'y a plus d'activité. Les collaborateurs ont été mis au chômage partiel. Alors, il faut quand même noter que l'entreprise a décidé de compenser. Donc, leur salaire sera versé à 100%. Et les entrepôts sont donc fermés pour au moins 5 jours. Ceux qui étaient ce matin à l'antenne d'Europe 1 ont peut-être entendu à 7h40 Frédéric Duval, qui est le patron France d'Amazon. On comprenait bien que c'était au moins 5 jours. Alors pourquoi cette fermeture? Je pense que quasiment là tous nos auditeurs en ont entendu parler. Amazon a été condamné par le tribunal de Nanterre pour ne pas avoir rempli de façon évidente toutes ses obligations en matière sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon certains syndicats, en interne, dans les entrepôts, toutes les nouvelles normes sanitaires n'avaient pas été mises en place. Alors pourquoi ils ferment? Ils ferment pour essayer de vérifier comment on peut faire pour se mettre aux normes et pour repartir derrière. Il faut voir que la justice leur avait quand même permis de se contenter de vendre uniquement les produits essentiels. Donc on avait compris que c'était l'alimentaire, que c'était le médical, que c'était la santé. Bon, comme disait très bien Frédéric Duval ce matin sur l'antenne d'Europe 1, est-ce qu'un coupe-ongle ça fait partie de la santé? Est-ce que des préservatifs ça fait partie du médical? Donc selon lui, hein, compliqué de mettre au point un dispositif. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré tout fermer pour se mettre à niveau et pour rouvrir d'ici quelques temps. Mais c'est un énorme.
Alors je vous pose, Emmanuel Duteil, bah bien sûr, pour beaucoup de gens, et je me mets à la place de ces gens et je me dis, nos auditeurs se disent, mais là, ce qu'on avait commandé et ce qui était annoncé en transit, alors ça arrive ou ça va repartir?
Ah ben non, si la commande n'était pas partie des entrepôts d'Amazon avant 13h aujourd'hui, il va falloir attendre plusieurs jours. Les seules choses qui vont fonctionner, c'est si vous commandez sur des sites étrangers d'Amazon, par exemple Amazon Allemagne, et là vous pourrez vous faire livrer. Et également si vous commandez par, alors si vous allez sur la marketplace d'Amazon et que vous passez par des petits producteurs qui disent qu'ils livrent eux-mêmes leurs produits, qui ne passent pas par la logistique d'Amazon, donc là aussi vous pouvez l'avoir. Mais c'est rien du tout par rapport à l'offre colossale qu'offre d'habitude Amazon.
D'accord. On a compris, et donc pour ceux effectivement qui n'avaient pas encore passé commande, ou en tout cas après 13h, c'est bouclé pour l'instant.
Après, il faut faire attention, hein. Il n'y a pas qu'Amazon quand même en France, hein. Il y a d'autres sites français, si vous avez besoin de matériel électroménager, on va dire, parce que semble-t-il que toute la France veut s'équiper de machines à pain en ce moment, vous pouvez aller sur Fnac Darty, vous pouvez aller sur Cdiscount, vous pouvez aller sur plein d'autres sites qui sont par ailleurs des sites français qui payent leurs impôts totalement.
Mais j'orientais quelques auditeurs qui me posaient la question, donc je vous la relayer. Michaël Darmon, les députés marcheurs, ils commencent un peu à perdre patience en quelque sorte. Ils aimeraient bien en fait monter des séances en vidéo, en visioconférence, des séances à l'Assemblée. Hein. Ils trépignent clairement. Ils veulent pouvoir s'exprimer.
Bien, ils se sentent également confinés et également ils subissent ce confinement, mais également d'une autre nature, parce que certains dénoncent effectivement, sous le couvert de l'état d'urgence sanitaire et du fait qu'il faille organiser l'hémicycle avec la distance que l'on voit, hein, donc à 4 ou 5 députés, peut-être 8 maximum dans l'hémicycle, et bien eux ils dénoncent aussi le fait qu'on en profite pour peut-être aussi installer, selon eux, une sorte de couvre-feu parlementaires au sein du groupe La République En Marche, ou tout simplement le débat est très 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 maintenant cadré, pratiquement donc impossible. On a le sentiment que certains députés qui sont plutôt identifiés dans le pôle gauche de la majorité, eh bien que ce virus est en train également de tuer ce en même temps qui avait fait la singularité et qui faisait ou qui fait la spécificité officiellement du groupe La République En Marche, puisque on l'a vu notamment alors dans les coulisses, le combat a fait rage autour du dossier sur l'assurance. Il y a eu un affrontement entre vraiment les tenants du pôle droite qui étaient plutôt dans une logique de défendre, en tout cas de minimiser la contribution pouvait venir du monde des assurances, par rapport donc au pôle gauche qui disait mais il y a quand même des rentrées, des chiffres d'affaires et des sommes considérables, des réserves considérables, il faudrait qu'ils participent plus. Et ils mettent en avant d'ailleurs ce paradoxe, puisqu'ils ont vu le président de la République lundi soir citer donc la déclaration des droits de l'homme, parler de la lutte contre les inégalités, et voilà que lorsqu'ils sont dans leur vie de groupe parlementaire, ils ont le sentiment que ça n'arrive pas jusqu'à la direction du groupe. Et donc, je peux vous dire que ça chauffe. Et
ça
aura des conséquences pour l'après-confinement. Oui.
Alors, Emmanuel Macron lui a parlé au point. Il a donné une interview. Vous allez y revenir dans un petit instant pour nous. Les grandes voix, tout de suite sur Europe 1 en direct.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec les grandes voix qui analysent les dernières infos du jour. Autour de vous à distance, Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, Emmanuel Duteil, chef du service Économie, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et depuis Marseille ce soir notre correspondante Nathalie Chevance.
Et on va justement s'arrêter tout près de vous, Nathalie Chevance, dans un instant, mais d'abord donner la parole à Alain, 62 ans, qui habite à Paris. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Vous avez travaillé, vous, en laboratoire. Et je crois que vous connaissez à peu près hein, les méthodes de Didier Raoult. On va interroger Nathalie Chevance sur le sujet juste après. C'est-à-dire
Écoutez, je vais être bien plus modeste que ça. Moi, je suis vétérinaire et j'ai travaillé effectivement dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire, dans lequel on mène des protocoles qui sont de même nature que ceux qu'on mène en médecine humaine. Mm-hmm.
D'accord. Et donc, comment aujourd'hui regardez-vous ce qui se joue à Marseille, typiquement, avec le professeur Didier Raoult?
Alors, ce que je trouve, moi, de ce qui sort de Marseille et du professeur Raoult, c'est qu'il a des hypothèses qui sont très séduisantes et que tout le monde voudrait voir s'avérer être vrai et réaliste. Mais on a quand même de grandes questions sur le fondement scientifique derrière lequel ces hypothèses sont fondées. Et si on prend l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, bah, clairement, il manque de protocoles pour l'instant qui démontrent effectivement, parce qu'il n'y a pas de groupe contrôle, l'efficacité des produits. Là, sur l'arrêt de l'épidémie, il y a une hypothèse qui est très intéressante et qui est très séduisante, et tout le monde souhaite qu'il ait raison, mais qui est peu légitimée au niveau scientifique.
C'est ça. Des hypothèses séduisantes, c'est ce que vous dites, avec un fondement scientifique pour le moins rikiki, faible en tout cas. Merci beaucoup Alain. C'est intéressant ce que nous dit Alain, Nathalie Chevance, vous qui êtes à Marseille. On a entendu le professeur Raoult, adoubé quand même par Emmanuel Macron ces derniers jours, par le président de la République, nous annoncer que c'était, ça y est, on était en fin d'épidémie avec le printemps. Eh bien, l'épidémie du Covid-19 s'en va. Mais c'est un peu court, il s'est arrêté là.
Oui, alors moi, je ne vais pas me positionner, bien évidemment, sur le fond du problème. Moi, je ne suis pas médecin. Moi, ce que je peux vous dire, c'est davantage la forme, la façon dont a communiqué le professeur Raoult, qui a suscité même ici à Marseille, dans le monde médical, certaines interrogations. Et le tout premier qui a dégainé, c'est quand même le patron de l'ARS, Philippe de Mestre, qui a répondu au professeur Raoult en utilisant exactement le même canal que lui, une vidéo postée sur les réseaux sociaux, avec ce message très sec qu'il a répété à deux reprises: non, l'épidémie n'est pas en train de disparaître. Voilà, c'est une petite phrase, c'est très simple, mais c'est pour quelque part pour remettre les compteurs à zéro, pour calmer surtout l'opinion publique, qui, il faut le dire, a plutôt tendance ici à suivre ce que dit le fameux professeur, qui compte quelque 360 000 abonnés sur son compte Twitter et qui utilise donc régulièrement YouTube pour s'exprimer et surtout pour exposer les résultats de ses dernières études scientifiques à l'IHU, avec des schémas, des tableaux qu'il montre, mais sans aucun débat contradictoire, puisque c'est le chargé de communication de l'IHU qui lui pose les questions. Alors, sur la fin de l'épidémie,
ça reste en interne.
Ah ben ça reste en interne. Je vous dis, il n'y a pas de débat contradictoire. C'est Alors, sur la fin de l'épidémie, eh bien, les quelques médecins avec qui je me suis entretenue à Marseille confirment qu'il y a bien une diminution du nombre d'entrées à l'hôpital, moins de malades en réanimation. C'est vrai encore là ce soir avec les derniers chiffres de l'ARS. Bah pour le reste, très grande prudence et surtout condamnation quand même de la façon dont communique encore le professeur Raoult auprès du grand public, par vidéo, sans filtre, avec le risque que chacun se dise « finalement, le confinement, ça ne sert plus à grand-chose ». Bref, ça brouille le message des autorités sanitaires et sur ce point, le cavalier seul du professeur Raoult n'est pas toujours bien apprécié.
Et pour cause. Alors justement, on va poursuivre avec Virginie Selmen, parce qu'il y a deux choses, Virginie Selmen. Il y a le fait que quand on a été touché par le Covid-19, est-ce qu'on peut l'attraper une nouvelle fois? Ce n'est pas exclu. On pensait les personnes guéries, immunisées, on en parlait avec le docteur Jimmy Mohamed tout à l'heure, mais le professeur Delfrécy du Conseil scientifique parle de possibles nombreuses récidives. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il a aussi indiqué hier... que l'épidémie pouvait très bien, si elle partait cet été, revenir à la rentrée en septembre même.
Oui, c'est exactement ce qu'a dit Jean-François Delfrécy hier, le président du Conseil scientifique. Il a dit l'épidémie peut effectivement partir au mois d'août et puis revenir en septembre. Donc, à l'heure actuelle, scientifiquement, on n'en sait effectivement absolument rien. Et puis, il y a même des théories de durée, disons, de l'épidémie, telles que des chercheurs d'Harvard ont imaginé que la distanciation sociale serait sans doute nécessaire jusqu'en 2022. C'est une étude qui a été publiée dans la prestigieuse revue Science, donc c'est pas du doigt mouillé. Et là, donc c'est évidemment pas non-stop, ce sera pas distanciation sociale non-stop jusqu'en 2022, mais ce serait, vous savez, on a déjà parlé un peu de cette théorie de stop and go, c'est-à-dire d'ici à ce qu'il y ait un traitement ou un vaccin, on ferait des petites périodes de confinement et puis on ressortirait. Ça permettrait peut-être, disent-ils, justement de bâtir cette fameuse immunité collective, d'arriver à un taux de rencontre avec le virus de la population assez important pour que le virus ne puisse plus circuler et puis s'évanouisse, si on peut dire ça comme ça, de lui-même. Donc voilà, et tout ça, ça a toujours ce même objectif, c'est-à-dire de maintenir des niveaux dans les services de réanimation, des niveaux de malades pas trop élevé pour que les hôpitaux ne soient pas saturés.
Ouais, enfin on n'y est pas, hein. On est vraiment très loin d'être débarrassé de ce virus. Emmanuel Dutheil, il en est question évidemment d'une reprise à partir du 11 mai, reprise pour un certain nombre de commerces, même pas pour le tourisme, on le sait, bien entendu. Il y a une bataille qui commence à se jouer, centres commerciaux et enseignes, les marques pour le paiement des loyers.
Oui, effectivement, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi cette bataille, mais les grandes marques et les plus petites marques présentes dans les centres commerciaux disent « c'est bien gentil, mais nous, on ne peut pas payer nos loyers, il faut donc absolument nous aider ». Et c'est des marques très connues, on a pu entendre par exemple le groupe Etam, hein, que tout le monde connaît, qui a fait cette demande. Mais du côté des grands groupes des centres commerciaux, alors c'est des groupes dont les noms ne nous diront rien. Si je vous dis Unibail, Rodamco, Westfield, vous allez me dire « what ?» Bon, c'est quand même le plus grand nom au monde des centres commerciaux. C'est eux qui ont les quatre temps à la Défense, c'est eux qui ont la Part-Dieu à Lyon, et ils sont partout comme ça dans le monde. C'est eux qui ont, pour ceux qui sont allés récemment à New York, le centre commercial qui a été ouvert, il n'y a que les Américains pour faire ça, sur le lieu même du 11 septembre. Donc vous voyez que c'est un groupe gigantesque, mais pourtant ils disent « on ne peut pas couper les loyers, ce serait trop important pour nous, c'est notre seule source de revenus ». Donc du coup, ils ont proposé pour la plupart, et en tout cas pour les grands noms, de reporter les loyers. Mais c'est la même question, et on n'arrête pas d'en parler tous les soirs ici. Reporter, quand on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre depuis des mois, c'est pareil, ça sera la fermeture assurée quasiment à la réouverture quand il faudra repartir si on doit payer tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse bataille en ce moment et ça m'étonnerait pas que le gouvernement force les uns et les autres à faire quand même des efforts un petit peu supérieurs à ce qui était fait. Faut quand même noter qu'il y a 2-3 groupes, notamment Auchan qui, dans les centres commerciaux qu'il détient, a décidé lui de supprimer la totalité des loyers du 15 mars au 15 mai.
Il faut que ça fasse des petits. Michaël Darmon, quelques mots. On n'attendait pas Emmanuel Macron en interview comme ça, à bâton rompu dans Le Point, en l'occurrence l'hebdomadaire. À la fois, il nous raconte sa crise, comment il la vit, mais pas seulement.
Oui, pas seulement, parce qu'en fait, il veut aussi tout simplement d'abord montrer qu'il maîtrise le récit. La logique en ce moment d'Emmanuel Macron, c'est de dire il faut arrêter de subir le calendrier imposé par l'évolution de l'épidémie. Donc maintenant, on a bien compris qu'il est tout simplement, déjà en annonçant lui-même le 11 mai, il est dans une logique de dire « je vais reprendre un petit peu le contrôle des horloges ». autant que faire se peut. Dans Le Point, d'ailleurs, il est aussi quelque part à contre-champ de ce qu'il nous a montré à la télévision, puisque autant à la télévision, il était en humilité, nous avons failli, je dois moi-même changer, et je ne sais pas.
Et dans, oui,
mais à coup pas. Et dans Le Point, c'est j'assume. Pas question de lâcher, il reprend tout, il assume chacune des décisions, il soutient même
c'était
d'ailleurs.
C'était avant la prise de parole de
Agnès,
lundi, hein.
Agnès Buzyn, c'était certes, mais enfin, il avait quand même, on reconnaît déjà dans l'interview des éléments qu'on a ensuite retrouvés à la télévision et après. Donc, globalement, il était dans un moment un peu différent. Effectivement, il a l'air de dire aussi, et une fois de plus, il le fait dans Le Point, que dans sa projection de sortie de crise, eh bien, il faudra travailler sur un nouveau modèle de société organisé, fondé sur une forme d'unité nationale. Mais je veux dire qu'en entendant les différents ministres ces derniers jours, depuis le lendemain donc, de l'intervention présidentielle à la télévision, on a le sentiment quand même que le principal remaniement qu'il devrait avoir, c'est aussi celui de la méthode présidentielle. Parce qu'en fait, il a vraiment, encore une fois, disent-ils, travaillé seul. Ils se sont enfermés en très petits comités.
Oui, il a été dit que c'était Édouard Philippe et Véran, le ministre de la Santé, exclusivement, voire deux, trois autres qui étaient au courant. Et c'est
absolument
tout.
Hein, et qui prévenaient des ministres concernés, comme le ministre de l'Économie, comme celui de l'Éducation, des arbitrages qui avaient été faits. Et de ce point de vue-là, lorsqu'il dit que tout le monde doit se réinventer, moi le premier, dit-il, peut-être effectivement y a-t-il un sujet de méthode s'il veut embarquer les Français, comme il dit, mais peut-être aussi faut-il qu'il continue à pouvoir embarquer le gouvernement.
Allez, merci beaucoup, Mickaël Darmon. Juste un mot, mais très très court, Virginie Salmen, s'il vous plaît, les joggings entre 10h et 19h, c'est reparti ?
Alors c'est reparti pour une grande partie de l'Île-de-France, pas Paris. Quelques villes du Val-de-Marne maintiennent l'interdiction. Mais voilà, on peut recourir dans beaucoup d'endroits, en tout cas en Île-de-France.
Dans le Val-de-Marne, je crois, entre autres.
Dans le Val-de-Marne, voilà, il y a quelques villes qui interdisent toujours, notamment aux abords du bois de Vincennes. Mais c'est intéressant parce que quand même, il faut comprendre juste une petite chose rapidement, c'est que des chercheurs en aérodynamie ont expliqué quelque chose avec un petit schéma assez simple à comprendre. Quand on court, on produit un sillage, une sorte de nuage de gouttelettes. Et dans ces gouttelettes, évidemment, il peut y avoir du virus. Alors, il faut faire attention, si vous croisez un jogger, malgré tout, puisqu'ils reviennent, de se tenir bien à distance
un peu plus loin d'eux,
bien sûr. Alors, 4 à 5 mètres derrière quelqu'un qui marche, par exemple. Si quelqu'un court 10 mètres derrière, l'idéal, c'est vraiment d'être côte à côte, pas du tout derrière la personne qui court, hein, parce que même à vélo, il y a cette espèce de nuage aussi, de sillage de gouttelettes. Ce qu'on ne sait toujours pas, évidemment, c'est si dans ces micro-gouttelettes, il y a suffisamment de virus pour qu'il y ait un risque d'infection. Ça, il y a encore un débat assez intense dans le milieu scientifique là-dessus.
C'est une étude chinoise qui a révélé qu'il fallait jusqu'à 4 mètres éloigné d'un malade, notamment. Merci à tous, les grandes voix.
Évidemment, c'est encore plus.
Exactement. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci, Nathalie Chevance, d'avoir été avec nous ce soir depuis Marseille. À demain, les grandes voix, bien sûr. Sans faute, je compte sur vous.